On célébrait alors la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent. Ils lui disaient : Jusqu'à quand nous feras-tu languir ? Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Ce qui me rend témoignage, ce sont les œuvres que moi je fais au nom de mon Père. Mais si vous, vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de mes moutons. Mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Ils ne se perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut l'arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ramassèrent à nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit : Je vous ai montré beaucoup de belles œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres allez-vous me lapider ? Les Juifs lui répondirent : Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous allons te lapider, mais pour blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit dans votre loi : Moi j'ai dit, vous êtes des dieux ? Ainsi elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être annulée. Et vous, vous dites à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde : Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu ? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres. Sachez et comprenez ainsi que le Père est en moi, comme moi dans le Père. » Ils cherchèrent encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Il retourna de l'autre côté du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui. Ils disaient : « Jean n'a produit aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup mirent leur foi en lui.
Jean nous le relate ici, un échange entre Jésus et des responsables juifs dans l'enceinte du Temple à Jérusalem. Et en réfléchissant un peu aux questions qui sont posées à Jésus et aussi aux remarques qui lui sont faites, j'ai essayé de trouver une expression qui collerait bien. J'espère qu'elle colle. En tout cas, à mes yeux, ce qui colle le mieux, c'est « à quoi tu joues ?» ou « à quoi vous jouez ?» Bien entendu, ce genre de question, elle peut être posée de manière très neutre. Imaginez que vous êtes un parent, vous allez vers un groupe d'enfants, ou vous êtes sans être parent, vous allez vers un groupe d'enfants. « À quoi vous jouez ?» très naturellement. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Une autre façon de l'utiliser, ce serait par exemple dans la situation suivante. Imaginez la scène. Vous êtes en train de faire vos courses, vous arrivez au moment de passer à la caisse, et là, quelqu'un vous a vu vous avancer vers la caisse, mais accélère pour passer devant vous, et met ses produits sur le tapis roulant. En mettant les produits sur le tapis roulant, elle commence à engager une conversation avec vous, elle aimerait que vous soyez attentif à ce qu'elle vous dit. Elle vous parle du magasin, elle se plaint des odeurs, du mauvais accueil, du manque de produits dans le choix, etc. Et là, alors que la caissière a déjà commencé à enregistrer ses produits, elle réalise qu'elle a oublié certains produits et elle vous dit : Ça ne vous dérange pas d'attendre quelques minutes, le temps que j'aille chercher d'autres produits ? De toutes les remarques que vous pourriez faire, je vais mettre celle-ci dans votre bouche, mais à quoi vous jouez ? Vous accélérez quand moi je suis sur le point d'arriver à la caisse, vous critiquez à tort et à travers le magasin dans lequel vous faites vos courses, et vous voulez que je vous écoute, mais non content de cela, vous voulez encore aller chercher des produits, vous usez de ma patience pour encore aller chercher d'autres produits. À quoi vous jouez ? D'ailleurs, ce genre de questions, on peut voir des questions comme « Qu'est-ce que c'est que cette manière de faire ? Qu'est-ce que c'est que ces manœuvres ? Pour qui est-ce que vous vous prenez ?» Et je vous suggère que c'est un peu le ton des remarques qu'on fait à Jésus dans cet échange. Et on va prendre deux remarques comme plan. Si c'est toi qui es le Christ, Dis-le-nous ouvertement. Versets 22 à 30. Et si ce n'est pas pour une ce n'est pas pour une belle œuvre que nous allons te lapider, mais pour blasphème. Versets 31 à 42. La première remarque porte sur son identité en tant que Messie, Christ, et la deuxième, elle porte sur son identité en tant que Fils de Dieu. On va voir les remarques, et aussi à chaque fois, on va voir comment Jésus répond, parce que ça vaut le détour, comme d'hab. Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jean, il aime bien nous poser le cadre dans lequel ces échanges ont lieu. Et ici, il nous donne une référence au lieu et au moment. Verset 22, on célébrait alors la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Qu'est-ce que c'est que cette fête de dédicace? Au moment où Jean rédige, c'est une fête assez récente dans l'histoire. Elle n'est pas mentionnée dans les écrits de l'Ancien Testament. Ça remonte, les faits remontent au 2e siècle avant Jésus-Christ. En 167 avant Jésus-Christ, le Syrien Antiochus Épiphane envahit la ville de Jérusalem, désacralise le temple, il fait mettre un autel païen dans le temple et fait retirer l'autel qui était consacré à Dieu. Il met en place une répression violente vis-à-vis des croyants juifs. Toute personne, par exemple, qui possède les Écritures est condamnée à mort. Répression violente. Et un certain nombre de juifs vont se révolter contre sa domination. C'est le début d'un conflit type guérilla. Et petit à petit, les juifs vont réussir à prendre le dessus, reprendre le temple grâce à l'impulsion d'un certain Judas Maccabée, surnommé Judas le Marteau. Alors, il ne faut peut-être pas le comprendre à la française, le marteau, mais Judas le Marteau, probablement dans le sens, il a été fort dans son entreprise. Le temple est repris, consacré à Dieu en 164 avant Jésus-Christ. Et pour célébrer la consécration du temple, on a cette fête qui dure 8 jours de la dédicace. Hanouka en hébreu, une fête qui est célébrée encore aujourd'hui par les Juifs. Pourquoi est-ce que Jean nous donne ces détails sur le lieu et sur le moment? Alors on pourrait se dire que c'est simplement des références spatio-temporelles pour son récit. Mais quand on regarde à Jean, il aime beaucoup parler des fêtes et de lier un discours de Jésus avec une fête. Et en particulier quand on arrive vers la fin, la fête de la Pâque, on voit qu'il y a un lien très clair entre l'identité de Jésus et ses fêtes. C'est comme si Jésus était l'accomplissement des Écritures, l'accomplissement des fêtes dans l'Ancien Testament. Et c'est dans l'environnement du temple, avec ce passé présent dans les esprits, que Jésus se promène. Et certains juifs viennent vers lui. Jusqu'à quand nous feras-tu languir? Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Et dans un premier temps, cette remarque, elle paraît tout à fait légitime. Après tout, c'est vrai. Publiquement, Jésus n'a pas dit qu'il était le Messie. Il l'a dit à la femme samaritaine. Il l'a dit, il l'a fait connaître à ses disciples. Mais tout ça, c'est en privé, pas en public. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait en public? On l'a vu dans le chapitre 6, Jésus se méfie des projections qu'on porte sur lui en tant que roi, Messie, Christ, comme un libérateur politique qu'on voulait. À ce moment-là, Jésus veut se distinguer de ces projections-là. Et quand on voit l'ensemble de sa trajectoire, là où il va passer, on réalise que c'est important pour lui de se distancier, de se méfier de ces représentations. Prenez par exemple les disciples. Ce sont des personnes qui l'ont écouté, qui ont cru en lui, qui l'ont suivi, qui voient en lui le Messie. Mais ils auront beaucoup de peine à accepter que le Messie passe par la croix comme un serviteur souffrant. Si c'est difficile pour eux, alors qu'ils croient en lui, à comprendre, à combien plus forte raison pour des gens qui ne croient pas en lui? C'est, semble-t-il, la raison pour laquelle il n'a pas dit ouvertement, en public, « Je suis le Messie ». La remarque qu'ils font ici à Jésus, c'est donc un peu comme « À quoi tu joues? Arrête de tourner autour du pot avec tes images de berger, de lumière. Allez, dis-nous clairement et simplement, est-ce que tu es le Messie ?» Comment est-ce que Jésus va répondre? Sa réponse est toute simple dans un premier temps. Verset 25, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. » Je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Autrement dit, le problème de fond, ce n'est pas qu'il n'a pas été clair. Le problème de fond, c'est qu'il ne croit pas en lui. Ce qui me rend témoignage, verset 25, ce sont les œuvres que moi, je fais au nom de mon Père. Jésus met en évidence que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, témoigne déjà qu'il est le Messie. L'affirme déjà. Il l'a déjà démontré, mais le problème, c'est qu'il ne croit pas. Et il poursuit en reprenant l'image du berger, « Mes moutons entendent ma voix, moi je les connais et ils me suivent. » Autrement dit, en ne l'écoutant pas, ils sont tout simplement en train de démontrer qu'ils ne font pas partie de son troupeau. À l'inverse, ceux qui l'entendent, ceux qui l'écoutent, démontrent, témoignent qu'ils l'ont bien reconnu pour qui il était vraiment. Et eux ont reçu le don d'une vie et d'une sécurité éternelle. Jésus va le redire en affirmant cette fois-ci que c'est le Père qui offre cette sécurité éternelle. Personne ne les ravira de sa main. Et il conclut en disant « Moi et le Père, nous sommes un. » Où est-ce que Jésus va en venir? Et si on rassemblait les indices? Cet échange, il suit un discours de Jésus où il s'est présenté comme le bon berger. Un berger qui est différent des voleurs et des mercenaires qui veulent ne pas vraiment se soucier du troupeau ou même le dérober. Et berger, c'est cette image, on l'a vu dimanche dernier, qui est reprise dans l'Ancien Testament pour parler des responsables du peuple. Il y avait déjà ce contraste dans l'Ancien Testament entre un bon berger que Dieu va envoyer, Ézéchiel 34, et les mauvais bergers qu'on a retrouvés tout au long de l'Ancien Testament. Ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice semble lié au moment où tout ceci se déroule. On est en train de célébrer la dédicace du temple, fin d'une période où l'attachement à Dieu, l'écoute de la parole de Dieu a failli être abandonné. Avec force, Antiochus Épiphane a essayé d'introduire une autre langue, un autre culte, une autre culture. Et heureusement, les Juifs à l'époque ont réussi à ne pas écouter cette voix-là. Troisième indice, c'est que Jésus affirme ici à ses responsables qu'ils ne l'écoutent pas, qu'ils ne font pas partie de son troupeau. Et il affirme dans la foulée que personne ne ravira de son troupeau ceux qui ont entendu sa voix. Il lui reproche de ne pas avoir le cran de dire ouvertement qui il est. Eh bien lui, en fait, il va aller bien plus loin. Il affirme qu'il est un avec le Père. Réaliser ce qui se passe. Ils sont venus vers Jésus pour lui demander à quoi ils jouaient. Et c'est comme si la question se renversait. À quoi est-ce qu'ils jouent, eux? À quoi est-ce que vous jouez en refusant d'entendre ce qui a pourtant déjà été clairement manifesté? À quoi est-ce que vous jouez en vous plaçant comme les garants de la vérité alors que vous ne m'écoutez pas? Lorsque tout démontre que je suis un avec le Père, mes paroles et mes œuvres. Et en s'adressant à eux, et ça j'espère que ça nous encourage, ceux d'entre nous qui sommes croyants ce soir, il nous dit la sécurité qu'il nous offre à nous qui avons suivi Jésus. Une parfaite sécurité. Personne ne m'arrachera de ma main. Ne les arrachera de ma main. Personne ne les arrachera de la main de mon Père. Il nous permet de nous reposer sur sa souveraineté. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a cherchés. C'est lui qui nous a donné la vie éternelle et qui nous garantit une sécurité éternelle. Aujourd'hui encore, autour du repas, il y a une personne qui disait que c'était ses paroles qui avaient été déterminante à un moment dans sa vie alors qu'elle se posait la question est-ce que je serai encore sauvé demain? Est-ce que je vais commettre l'irréparable? Ici, Jésus garantit, parce que c'est lui le bon berger, que tous ceux qui l'ont entendu le suivront jusqu'au bout. personne ne les arrachera de sa main. Il y a un livre qui a fait pas mal parler de lui il y a quelques semaines, vous l'avez peut-être vu dans les vitrines, il s'intitule « Le royaume » d'Emmanuel Carrère. Et l'auteur revient sur la naissance du christianisme et aussi il dévoile qu'en fait il ne croit plus. Il ne croit plus au message du christianisme. Et voici ce qu'il écrit quand il explique une des intentions de cet ouvrage. Non, je ne crois pas que Jésus soit ressuscité. Je ne crois pas qu'un homme soit revenu d'entre les morts. Seulement qu'on puisse le croire et de l'avoir cru moi-même, cela m'intrigue, cela me fascine, cela me trouble, ça me bouleverse. Je ne sais pas vraiment quel verbe convient le mieux. J'écris ce livre pour ne pas me figurer que j'en sais plus long, ne le croyant plus, que ceux qui le croient, et que moi-même, quand je le croyais. J'écris ce livre pour ne pas abonder dans mon sens. On peut dire qu'il est tout à fait légitime de faire part de ces questions, de ces doutes, et on pourrait même dire qu'il y a certaine beauté dans le fait de dire qu'il a été bouleversé à l'idée d'avoir cru. Mais qu'est-ce qu'il entend par « j'écris ce livre pour ne pas abonder dans mon sens » ? Dans quel sens est-ce qu'il écrit ce livre ? Dans quel sens est-ce qu'il l'édite ? Ça se voit sous la plume de différents auteurs. Il y a comme cette idée que on a eu le courage de surpasser ses aspirations. Ne pas croire ou ne plus croire, c'est comme se dégager d'une aspiration en nous, tellement forte. Trouver le courage, celui d'une décision humaine, informée, responsable. Mais remarquez dans notre passage que si les êtres humains sont décrits comme responsables dans leur choix de croire ou de ne pas croire, la foi dont Jésus parle, c'est lui qui l'a initiée. C'est lui qui la maintient. Et le Père la maintient. Si Jésus dit vrai, ça veut dire que malgré les doutes, malgré les questions que l'on peut avoir, malgré les épreuves, un véritable croyant, un vrai croyant, selon Jésus, il le sera jusqu'au bout. Et pas parce qu'il se laisse entraîner par ses aspirations, parce qu'il abonde dans son sens, mais parce que c'est Jésus qui l'a appelé. C'est lui qui l'a convaincu de quelque chose qu'il ne l'avait pas convaincu lui-même, en quelque sorte. C'est lui et le Père qui maintiennent cette foi jusqu'au bout. Le deuxième point, c'est cette remarque. Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous allons te lapider, mais pour blasphème. L'affirmation de Jésus au verset 30, avec laquelle on a terminé la section précédente, « Moi et le Père, nous sommes un », elle a fait pas mal parler d'elle. Au IVe siècle déjà, un certain Arius s'appuyait sur ce verset pour affirmer que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. Pour lui, pour cet Arius, Jésus ne parlait que d'une unité d'objectif dans la direction. Dieu veut assurer la sécurité des croyants. Jésus veut assurer la sécurité des croyants. Et pareil plus récemment dans l'histoire, avec les témoins de Jéhovah, en faisant le lien entre ce verset et des versets plus loin dans l'évangile de Jean sur l'unité des croyants, au chapitre 17, ils affirment que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. Comment répondre ? Le contexte, il est déterminant pour ces paroles. Quelle est la réaction des témoins ? Verset 31, ils ramassent des pierres et ils expliquent par la suite que s'ils veulent le lapider, c'est parce qu'il s'est fait Dieu. Et pour eux, il n'est qu'un homme. Est-ce que Jésus est simplement en train de parler d'une unité d'objectif ? Si c'est le cas, mais alors pourquoi une telle réaction ? Et ce n'est pas la première fois. Regardez au chapitre 5, les auditeurs juifs qui entendent Jésus affirmer « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre ». Le commentaire de Jean, c'est pourquoi les juifs cherchaient d'autant plus à le tuer.
non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Dans l'esprit des Juifs qui écoutent Jésus parler, il n'y a pas de doute, Jésus est en train d'affirmer sa divinité. Et c'est pour ça qu'on ne le supporte pas. Alors après, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils avaient tort ? Est-ce qu'ils avaient tort de penser ça ? Est-ce qu'ils avaient tort de voir rouge à plusieurs reprises et de vouloir le tuer ? Si on se met quelques instants dans la peau de l'apôtre Jean qui rédige cet évangile, on réalise qu'ils n'ont pas tort de penser que Jésus a bel et bien manifesté sa divinité. C'est comme ça qu'il a commencé son évangile. Et quand il le termine, il va le terminer avec cette affirmation aussi de Thomas à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Là où il pense, Jean, il pense qu'ils ont tort, c'est dans le fait que Jésus usurpe cette position-là, qu'il n'a pas le droit de dire ça. Jean n'est pas d'accord là-dessus. Dans l'esprit des auditeurs, ils se demandent comment Jésus a pu prétendre une chose pareille. À quoi tu joues ? Pour qui tu te prends ? Mais Jésus les interpelle à son tour. Verset 32, « Je vous ai montré beaucoup de belles œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres allez-vous me lapider ?» Ce à quoi ils répondent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous allons te lapider, mais pour blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Quand on prend un peu de recul dans ce passage, c'est intéressant de voir le mouvement qu'il y a. Dans le premier échange, si on est venu vers lui, c'est pour lui dire « T'es pas assez clair, dis-le explicitement, dis-le-nous avec des mots. Est-ce que tu es le Messie ? Arrête avec tes images, dis-le-nous clairement. » Mais quand il se met à parler, qu'est-ce qu'on lui dit ? T'en as trop dit, blasphème, t'en as trop dit, tu mérites la mort pour tout ce que Dieu a dit. Est-ce que Jésus n'en dit pas assez ou est-ce qu'il en dit trop ? En Jean 5, on veut le mettre à mort parce qu'il a fait une œuvre, une belle œuvre, le jour du sabbat. Ici, on veut le mettre à mort à cause de ses paroles. Autrement dit, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, on ne veut pas l'entendre et même pire, on veut le tuer. Comment est-ce que Jésus va poursuivre dans l'échange ? Il dit ceci, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? Moi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Ainsi, elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et l'écriture ne peut être annulée. Qu'est-ce qu'il veut faire par cette citation, Jésus ? D'abord, on peut dire qu'en fait, il essaie pas de démontrer par cette citation qu'il est Dieu. Ce n'est pas ce que la citation met en évidence. Et d'ailleurs, ils ne sont pas prêts à l'entendre. Mais cette citation, elle a l'avantage d'interpeller. On n'a pas le temps de lire le psaume pour voir le contexte dans lequel elle a été rédigée. Mais on peut dire qu'il y a un lien avec cette parole, cette révélation donnée à Dieu au peuple, au Sinaï. Et que le terme Dieu renvoie à certaines personnes dans le peuple, comme les rois ou les prophètes ou les personnes qui étaient en vue, ou à tout le peuple. Ce qu'il y a clair, c'est qu'il y a des représentants de Dieu, qui devait en quelque sorte être ses porte-paroles. Et le psaume met en évidence qu'ils n'ont pas été à la hauteur, que ce soit le peuple ou les responsables, ils n'ont pas été à la hauteur de ce rôle. Alors quel est l'argument de Jésus ? Où est-ce qu'il veut en venir ? Est-ce que mes paroles sont blasphématoires ? Tout simplement parce que je me suis fait appeler fils de Dieu ? Après tout, Dieu utilise le terme pour parler du peuple ? De membres du peuple, avec un D minuscule, ses représentants. Ça, c'est le premier argument. L'écriture, qui ne peut être annulée et sur laquelle vous vous basez, elle en parle de Dieu en l'utilisant pour un homme. Mais au-delà, il y a une invitation certainement à la remise en question. Quand on regarde le contexte du psaume, on voit juste avant, psaume 82, verset 5, la description des personnes qui se font appeler Dieu, ils n'ont ni connaissance, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. par cette citation, n'y a-t-il pas une invitation à être prêt à entendre la parole? Chapitre 10, où il a dit qu'il était le bon berger qui appelle. N'y a-t-il pas une invitation à recevoir cette lumière? Chapitre 9, où il s'est présenté comme la lumière du monde. Et dans tout cela, on remarque quelque chose de remarquable chez Jésus. Vous imaginez si vous aviez été dans sa peau, vous avez une hostilité telle qu'à plusieurs reprises, les gens qui vous entendent parler, ils sont prêts à vous mettre à mort. Vous essayez de les convaincre, mais quoi que vous disiez, ils sont comme un mur. Ils n'écouteront pas. Jésus, lui, à la différence de moi, et certainement de beaucoup d'autres ici, il continue. Il est prêt à essayer à les convaincre encore. Il est prêt à les inviter, par exemple au verset 38, « Même si vous ne me croyez pas moi, même si vous ne me croyez pas moi, croyez au moins mes œuvres. Vous êtes témoin, vous avez vu cet homme qui était né aveugle, vous avez vu ce paralytique guéri. Même si vous ne me croyez pas moi, croyez au moins ces œuvres-là. » Mais l'hostilité, elle demeure et il cherche encore à l'arrêter. Et Jésus est contraint de devoir fuir. Jean aurait pu s'arrêter là, dans son récit, et passer à la section suivante sur la mort de Lazare. Il aurait pu s'arrêter là. Mais il nous emmène où tout a commencé, de l'autre côté du Jourdain, où Jean, surnommé le baptiseur, avait baptisé celui qui a précédé Jésus. Et là, dans ce contexte-là, la réaction, elle est toute différente. On lit au verset 41-42, « Beaucoup de gens vinrent à lui, à Jésus. » Il disait, Jean n'a produit aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup mirent leur foi en lui. Pourquoi est-ce que Jean met ça par écrit? Peut-être simplement qu'il veut faire un contraste entre le caractère obstiné des personnes qui ont parlé avec Jésus et ces personnes qui sont prêtes à le croire. Mais il y a peut-être autre chose. Moi, j'ai l'impression que Jean avait une certaine admiration pour Jean, le baptiseur. Lui, il s'appelait Jean, mais Jean, le baptiseur. Souvenez-vous, par exemple, alors ça remonte loin pour ceux qui étaient là, mais au chapitre 3, à ceux qui demandent à Jean pourquoi il n'est pas affecté par la concurrence avec Jésus qui baptise plus de personnes. Verset 28 du chapitre 3, Vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais c'est devant lui que je suis envoyé. Écoutez comment il en parle maintenant. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, donc lui, qui se tient là et qui l'écoute, éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne est donc complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est pas magnifique de voir comment Jean se réjouit de ce que Jésus est la première place. Et la question avec laquelle je vous laisse, c'est comment est-ce que vous allez réagir vis-à-vis de Jésus, de ce qu'il a dit, vis-à-vis de ce qu'il a fait? Est-ce qu'on va bloquer toutes les directions qu'il pourrait prendre pour nous convaincre qu'il est bel et bien le Christ, le Fils de Dieu? Ou est-ce qu'à la manière d'un Jean le Baptiste, on va être comme des personnes qui prépareront le terrain pour d'autres? C'est-à-dire qu'on est tellement heureux de voir Jésus être honoré, élevé. On veut qu'il croisse et qu'on diminue. Est-ce qu'on aura cette aspiration-là? Est-ce qu'on se réjouira dans nos journées, de ce que ce n'est pas nous qui sommes au devant de la scène, vus comme les gens bien, mais tout simplement témoins d'une œuvre magnifique que Jésus a accomplie autour de nous et en nous. Comment est-ce qu'on va réagir vis-à-vis de lui? Je t'invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu connais les cœurs de chacun et tu connais les objections qui sont levées chez les uns ou les autres. Tu connais les questions et parfois les questions sincères qui sont posées et qui ont besoin d'une réponse. Mais quelle assurance et quel réconfort de savoir que c'est sa voix qui appelle. Que c'est lui qui permet à une personne de voir, d'entendre. Et nous voulons te remercier, Père, à nous qui avons saisi qui est Jésus, de nous avoir permis de voir en lui le Christ, le Fils de Dieu. Tu vois comment nous-mêmes, on détournait facilement la conversation ou on le prenait de haut avec arrogance ou en pensant pouvoir vivre sans lui par nos propres mérites. Merci, Père, de nous avoir permis de rencontrer un tel berger et de goûter à une telle assurance, l'assurance de la vie éternelle. Notre Père, te prie, Père, que tu nous accordes, comme Jean-Baptiste, d'avoir un témoignage clair, pas de signe, pas de miracle, quelque chose d'extraordinaire, mais des paroles qui disent que Jésus est bien plus grand que nous, bien meilleur que nous. Et que cela permette à d'autres d'entendre cet évangile. Nous te le prions pour la gloire de son nom. Amen.